Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Vanessa Zibi et Noah Katz qui nous parlent de My Jewish Bakery qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir.
Bonsoir Noah.
Bonsoir.
Les traditions culinaires sont un héritage qui se transmet de génération en génération. La cuisine, on peut dire, est le miroir des traditions. Plurielle, elle est un élément à part, entière, du patrimoine juif, au même titre que la musique ou l'art. En même temps, chacun possède ses recettes d'un même plat, avec ses propres parfums, ses saveurs et ses ambiances qu'on ne cesse de vouloir recréer. C'est un patrimoine, un art de faire, transmis de génération en génération. Aujourd'hui, loin des pays dont sont originaires nos aïeux, la valeur symbolique, rituelle et traditionnelle de la cuisine juive est loin d'avoir disparu. On pourrait même dire que c'est un élément fondateur de l'identité du judaïsme. On est ce que l'on mange, dit un dicton yiddish. La cuisine nous donne un sentiment collectif d'appartenance. En préparant, en cuisinant, en nous alimentant, nous transmettons un patrimoine. Vanessa Zibi, en collaboration avec Noah Katz, vous êtes les auteurs d'un livre de recettes de boulangerie et de pâtisserie de la cuisine juive. Son titre, on l'a donné, mais on le redonne, My Jewish Bakery, qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Dans ce bel ouvrage richement illustré de photographies de Guillaume Tchertch, ou je ne sais pas si je prononce bien.
Serve.
Alors moi, je le disais à la polonaise, mais on va dire à la française.
Mais donc, d'origine polonaise.
Voilà. Quand il y a un C et un Z qui se suivent, en général, c'est ça.
Donc
vous présentez 65 recettes sucrées du patrimoine culinaire ashkénaze, séfarade et israélien. Alors, on va dire quelques mots de présentation. Vanessa Zibi, vous êtes depuis toujours passionnée par la cuisine, la boulangerie et la pâtisserie. Vous êtes née à Paris de parents juifs tunisiens. Vous avez fait des études à New York, mais vous vivez désormais à Paris. Et vos voyages vous ont souvent menée à Tel Aviv, une ville dont la gastronomie est désormais reconnue et qui s'exporte à l'international, dont la France. Et vous êtes déjà l'auteur de Shabbat Dinners en 2021, toujours aux éditions de La Martinière. Quant à vous, Noah Katz, vous êtes chef pâtissière. D'origine ashkénaze, vous avez été formée par Cyril Lignac et Benoît Couvrant. Consultante pâtissière pour les émissions Le meilleur pâtissier et Tous en cuisine sur M6, vous intervenez régulièrement dans des ateliers de boulangerie-pâtisserie et vous ouvrez prochainement votre première boutique de pâtisserie à Tel Aviv. Mazal Tov.
Voilà, vous avez tout dit, c'est très bien résumé.
Voilà, et donc cet ouvrage est le fruit de votre collaboration. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vanessa, comment est née l'idée de ce livre?
Alors, pendant la production de Shabbat Dinners, comme vous l'avez bien expliqué, sorti en 2021, j'ai eu envie de plus en plus d'ajouter des pâtisseries et des pains. Donc, My Jewish Bakery reprend en fait tout ce patrimoine. J'ai beaucoup aimé votre introduction, c'est vraiment un patrimoine. Et on a voulu en fait explorer beaucoup plus ce territoire qui est la boulangerie et la pâtisserie avec un livre dédié. Donc au fur et à mesure de la conception de Shabbat Dinner, je ne faisais qu'ajouter des pages de pâtisserie et des pages de pain. Or, on sait tous, Shabbat en général, déjà assez copieux, donc est-ce qu'on va rajouter un boulou, un bouscoutou, est-ce qu'on va rajouter des cigares au miel? Pas forcément. Alors après, je ne parle que de spécialités tunisiennes, mais bien sûr, l'intérêt de nos livres, c'est de faire en sorte que toute la gastronomie juive est représentée et pas que la gastronomie séfarade. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je me disais, l'idée a émergé de faire en sorte qu'il y ait un livre dédié. Et donc, My Jewish Bakery comprend des recettes principalement sucrées, mais pas que sucrées, parce qu'on a choisi les pains, ce n'est pas forcément des recettes sucrées. On a choisi avec les éditrices de retracer, sur le même principe que Shabbat Dinners, toute la cuisine juive, ashkénaze, séfarade et israélienne, avec des pâtisseries, mais aussi des recettes de street food. Alors, ce que j'appelle street food, c'est un casse-croûte tunisien, des borekas. Enfin, c'est pas forcément de la street food dans tous les termes, mais c'est vraiment des recettes très faciles à faire, qui sont rapides pour toute la gastronomie plutôt salée, et des pains pour retracer tout ce patrimoine et pour faire ce livre. On a fait appel à plein de recettes de mères, de chefs, d'amis pour collecter quelque chose qui représente le plus possible une grande diversité qui est, comme vous avez bien précisé en intro la diversité de notre culture.
Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a Vanessa Zibi, d'origine tunisienne, et qu'il y a Noah Katz, d'origine séfarade. Oui. C'est l'histoire de ma vie, hein, cette histoire judéo...
Noah Katz, d'origine ashkénaze.
Oui,
j'ai eu un petit lapsus.
Ah, pardon. Alors, d'origine ashkénaze. Alors, comment, Noah, vous êtes arrivée à participer à ce projet?
J'ai été contactée par Vanessa, qui m'a parlé de son projet de livre. Et ça m'a tout de suite... intéressée parce que le pourquoi du livre aussi m'a touchée, c'était de décrire les recettes de grand-mère, de nos mères, de manière officielle et grammée sans une pincée, une poignée, un verre, de les rendre accessibles et un peu éternelles, quoi.
Alors, il y a une distinction qui est faite. Pour nous, novices, on ne la fait pas d'habitude, mais je pense que là, vous venez d'en donner la réponse, Vanessa, en parlant, en disant quelques mots. Finalement, quelle est la différence entre les spécialités de boulangerie et de pâtisserie?
Nous, on a voulu faire en sorte que le point commun, avant de parler de différence, le point commun, c'est qu'on retrace ce patrimoine avec la plus grande diversité possible. Et comme l'a précisé Noah, ce qu'on a voulu faire de particulier avec ce livre, Noah, c'est une chef pâtissière. Donc, elle a fait en sorte que, pour les recettes qu'elle a imaginées, donc il y a une quinzaine de recettes imaginées par Noah, elle les a traitées avec une exigence d'un pâtissier. C'est-à-dire, plutôt que de dire une poignée, effectivement, on va avoir une mesure. Donc, nous, on a vraiment fait en sorte que tout le livre est animé par cette cohérence pour qu'on puisse reproduire chacun, même si on n'a pas de mère ashkénaze ou on n'a pas forcément les origines marocaine qui permet de créer des svench. Donc là, on peut le faire et on retrace toute la diversité de la cuisine. Donc ce qu'il y a comme différence entre la boulangerie et la pâtisserie, le pain, c'est une très grande différence entre du pain et la pâtisserie. Hein. La pâtisserie, il suffit d'avoir une recette bien exécutée. Enfin, il faut se lancer. Hein. Je sais que vous êtes lancé dans une babka.
Alors justement.
Donc il suffit de se lancer et de suivre la recette. Le pain, il y a un tout petit peu de technicité, oui. De température. Il faut avoir un peu la main. Il faut le faire un petit peu pour réussir à tourner. Mais je pense que Noah nous dira qu'il faut aussi avoir la main sur la pâtisserie. Donc...
Alors justement, est-ce que la babka, c'est de la viennoiserie, donc de la boulangerie ou de la pâtisserie, Noah?
Alors c'est plus considéré comme de la viennoiserie. C'est une pâte qu'on lève et qu'on garnit. Donc c'est considéré comme une brioche qu'on garnit, donc de la viennoiserie.
Et donc de la boulangerie?
Alors, la viennoiserie, ça va avec la boulangerie et avec la pâtisserie, parce que c'est quelque chose qu'on apprend en CAP de boulanger et en CAP de pâtissier. C'est un peu le lien entre la boulangerie et la pâtisserie.
Alors là, on dit des choses très techniques, mais en fait, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de reproduire ces 65 recettes de spécialités de boulangerie et de pâtisserie que vous-même, vous l'avez dit, vous avez recueilli auprès de mères juives, de chefs israéliens. Et puis, il y a aussi vos créations exclusives, Noah. Et vous nous faites redécouvrir toutes les recettes traditionnelles du patrimoine juif, les chalotes, les bagels, les pitotes, mouna, qui côtoient les babkas, les pâtisseries de fêtes comme les bouskoutou, manicotti, cheesecake, baklava, ou menteshen de Purim, beignet ranouka, et bien d'autres délices à la fois sucrées et salées. Et rien qu'en parlant, on salive déjà. Qu'est-ce qui fait de ce livre un livre unique?
Alors, pour moi, ce qui est unique, évidemment, je suis mal placée pour estimer que ce livre est unique, mais ce qui est unique, c'est qu'on a vraiment cherché à faire revivre des émotions d'enfance. Donc, quand on parle de boulot, on ne parle pas d'un gâteau qui est un peu sec, qu'il faut absolument tremper dans un café parce que c'est un peu sec. Non, on dit le boulot, c'est le boulot de ma grand-mère. En fait, quand vous interrogez vos amis, je vous invite à faire l'exercice, tous ceux qui nous écoutent, vous interrogez vos amis sur qu'est-ce qui te semble plus approprié comme un souvenir d'enfance dans ta culture. Très souvent, on va dire le repas de Shabbat, la sortie de Kippour, on a goûté un boulou, ou selon les spécialités, d'autres spécialités de pâtisserie, selon les cultures. Et donc, ces souvenirs culinaires, ces souvenirs gastronomiques, forment un peu notre patrimoine émotionnel de ce qu'on a ressenti comme un moment de famille.
Mmh.
Et donc, c'est ça qui est unique, c'est de faire revivre. On a beaucoup de photos de vie. De gens qui sont dans le livre et qui dégustent des spécialités. Et on a beaucoup de photos de Tel Aviv dans le livre également, parce qu'on veut ressentir ces émotions qui sont des émotions de découverte et des émotions d'enfance.
Alors, il y a plusieurs parties hein, dans l'ouvrage. Il y a les recettes, il y a les photos, il y a les bonnes adresses. Et il y a cette première partie aussi que j'aime bien, qui explique finalement les grandes spécificités des fêtes du judaïsme et comment elles sont marquées par des mets. Et on a l'impression que finalement, en monde juif, quand on a tout oublié de son judaïsme, eh bien, il reste les saveurs de son enfance.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on a voulu faire cette introduction qui retrace un peu tout le calendrier. Donc, il y a une introduction qui parle de pain, notamment, et qui parle aussi de tout le calendrier et des mets qui sont associés avec chacun. C'est qu'on veut associer ce livre au monde juif, mais pas uniquement. C'est une ouverture, c'est une porte d'ouverture sur la culture juive. Et moi, j'ai eu des contacts et des messages de personnes qui sont non-juives qui m'ont écrit pour me dire que c'est une découverte de comprendre mieux cette culture au-delà des babkas qu'on commence à connaître les uns les autres assez massivement. Elles sont maintenant présentes dans toutes les boulangeries, très loin d'être juives ou pas juives. Ça permet de découvrir le calendrier, les spécialités, un peu ce qui cache derrière chacune des fêtes.
Et Noah, c'est tradition et modernité, puisque vous, à partir de ce patrimoine culinaire, vous réinventez des recettes. C'est un peu ça votre idée, votre fil directeur quand vous cuisinez ?
Alors, c'était pas vraiment de réinventer, c'était vraiment de les rendre accessibles à tous et quasi inratables. C'est-à-dire que je voulais donner des petites techniques, donner des grammages qui font que vous allez réussir à refaire le bouscoutou ou un gâteau aux carottes, ce genre de choses. Je pense que il n'y a pas forcément besoin de réinventer cette pâtisserie qui est très riche, mais fallait la rendre accessible, je pense.
Alors, en feuilletant les pages, on a un mot en tête, c'est celui de transmission. Et il y a d'ailleurs cette dédicace hein, qui ouvre le livre, je la cite pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, à mon père Rémi, qui aurait été fier de savoir que j'ai trouvé le moyen de philosopher sur sa passion, les fricassés. Qu'est-ce qui se cache derrière cette citation ?
Bon, déjà, il se cache une sorte d'autodérision, d'une certaine manière, et d'humour, parce que mon père était un peu connu pour son sens de l'humour. Donc, évidemment, on ne philosophe pas tellement dans le livre sur les fricassés. On donne juste la recette des fricassés, on en parle. Mais l'idée, c'est que j'ai dédié mes deux livres, Shabbat Dinners et celui-ci, à mon père, qui, en fait, tenait vraiment à cœur qu'on fête tous les plats, toutes les fêtes juives et tous les Shabbats avec des mets qui rappellent ses origines. Donc mon père a un point commun avec votre famille, c'est qu'il est de Tunis même.
comme on dit.
Ma mère est de Sousse et donc pour eux, c'était le patrimoine qu'il fallait transmettre. Et il était très fier de constater que ses petits-enfants, évidemment nés à Paris, hein, évidemment ses enfants sont nés à Paris aussi, ses petits-enfants, il était très fier que ses petits-enfants adorent la pkéla. Alors que d'apparence, on ne peut pas estimer que l'apkala, c'est le plat le plus sexy visuellement qu'on puisse imaginer. Alors je sens le tollé dans l'audience qui va trouver que visuellement c'est sexy. Mais
alors il faut l'expliquer, il y a peut-être des personnes
non,
qui ne savent
exactement.
Pas.
L'apkala, c'est donc un plat d'épinards frits que vous faites mijoter très longtemps et que les Tunisiens érigent comme le plat principal.
Donc, et il faut imaginer une couleur un peu verdâtre, noire, verdâtre, un peu comme du pétrole. Hein.
Donc je vous invite à regarder sur Internet la visualisation. Et donc pour mon père, c'était vraiment cette fierté de transmission qui passait par les plats. Et moi, j'ai vraiment, pour mes deux livres, cherché à retracer toute la diversité. Et donc, il y a, mettons, 10% de recettes qui sont plutôt tunisiennes, je dirais 10 à 15%. Et tout le reste, c'est vraiment beaucoup israélien, beaucoup ashkénazes, marocains, pour faire en sorte qu'on ait une vraie diversité. D'ailleurs, Noah a fait ses classes à Tel Aviv et a apporté aussi cette touche de culture israélienne dans le livre.
Justement, les recettes de la cuisine juive ont été élaborées avec les aliments disponibles sur les lieux d'accueil du peuple juif. Selon les aires géographiques où se sont trouvés les individus juifs, les traditions culinaires n'ont rien en commun. Est-ce qu'on peut dire finalement quels sont les points communs et les divergences des recettes de boulangerie et de pâtisserie entre les mondes séfarades et les mondes ashkénazes? Est-ce qu'il y a vraiment des particularités dans les ingrédients utilisés?
Alors, je ne sais pas si Noah, tu veux compléter sur ce point-là, mais pour moi, il y a des points communs parfois sur les tout petits détails. C'est assez amusant, c'est que si on prend un exemple, que moi j'aime bien, c'est les svenges qui sont donc des beignets. qu'on fait très souvent dans la sortie de Pessah pour les Marocains. Les svenjans, c'est des beignets qui sont frits et qui sont recouverts de sucre ou sucre glace. Bah, finalement, ce qui est la différence entre un svenj et un bomboléno, qui est la bomboléno, qui est un, je prononce pas, un bombolini, qui est la version tunisienne. Alors, d'aucuns nous diront que la seule différence, c'est la manière dont vous jetez le beignet dans la friture. Donc là, on est vraiment sur de la subtilité de chez subtilité. Et la présentation, est-ce qu'il y a un trou ou il n'y a pas un trou? Donc là, on est vraiment une question culturelle. Nos mères ont fait des svenj d'une certaine manière et les Tunisiennes vont faire différemment. Donc je pense qu'il y a des différences parfois qui sont subtiles, des différences un peu plus importantes. Mais les ingrédients restent très souvent les mêmes quand on parle de pain. On est en train de parler des grands classiques, des ingrédients de pain ou de brioche. Et après, en pâtisserie... je vais laisser Noah en parler plus, mais effectivement, c'est plutôt Ashkenaz, la culture Ashkenaz, qui va faire un gâteau comme un gâteau aux carottes. Je te laisse commenter.
Oui, bien sûr. Et rajouter quelques arômes comme la fleur d'oranger ou l'eau de rose. Exactement. Dans les gâteaux plus séparables.
Et la cannelle, c'est plus... peut-être chez les Ashkenaz un peu plus, non?
Oui, la cannelle, oui. Peut-être utilisée un peu plus chez les Ashkenaz que chez les séparades. Le miel un peu plus chez les Séfarades que chez les Ashkenaz. Voilà, ça va être des petites différences qui s'expliquent par les différences de culture, mais au final, les gâteaux sont quand même ont un gros point commun qui est de vouloir réunir autour d'une même table. Donc, au final, c'est le même but.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Vanessa Zibi et Noah Katz, qui nous parlent de leur actualité, la parution aux éditions de La Martinière de My Jewish Bakoui. Contrairement à l'Afrique du Nord, on a l'impression que la cuisine ashkénaze se perd un peu, et notamment en France. Peu sont ceux qui continuent de mitonner de bons plats traditionnels, pas compliqués à réaliser pourtant quand on a les ingrédients. Est-ce que finalement votre livre n'a pas une autre mission, celle de sauvegarder un patrimoine culinaire qui disparaît?
Oui, et c'est vrai que c'est important que vous mentionniez ça, et Noah tout à l'heure en a parlé, quand on parle de donner à ces mets qui ont un caractère sacré de transmission, une certaine éternité. Et vous avez raison de le souligner, et c'est pour ça que sur mes deux livres, j'ai cherché à nous accompagner de chefs ou de cuisinières renommées ashkénazes. Et dans My Jewish Bakery, j'ai demandé à Catherine Kluger, qui est une femme extraordinaire, qui a créé sa propre production de céréales et de barres organiques, et qui a aussi une famille ashkénaze. Et elle a recréé deux recettes ashkénazes de son enfance, notamment les pancakes de Pessah. Et j'ai aussi demandé à Florence Kahn, qu'on ne peut pas ignorer quand on est dans le monde ashkénaze, qui a été aussi présente dans le premier livre, de retracer, de partager deux recettes fétiches. Donc le flodni, qui est un gâteau avec du pavot et des pommes, et son fameux cheesecake. Et l'idée, et dans le premier livre, Shabbat Dinners, on a aussi demandé à Florence Kahn de partager des recettes comme
le gift. Alors, il faut le dire, hein, elle a une institution, hein, rue des Rosiers.
Voilà. C'est une institution qui est une des boutiques qui reste légendaire rue des Rosiers, comme symbole de la culture juive. Et elle est toujours là, elle est toujours dans sa boutique à donner des conseils et expliquer la cuisine yiddish et la cuisine ashkénaze. Et donc voilà, dans ce livre, on a vraiment voulu faire en sorte que ces recettes ne soient pas oubliées.
Noah, vous êtes chef pâtissière. On peut craindre que le niveau soit très haut pour réaliser les recettes. Est-ce qu'elles sont faciles à confectionner pour tout le monde?
Elles sont vraiment faciles à confectionner. Le but, c'était pas de donner la recette de pièces montées ou de gâteaux trop compliqués. C'était vraiment de donner à porter les gâteaux qu'on connaît tous. De Ashkenaz ou Sepharad, par exemple les oreilles d'Aman, ou les croquants. C'est de donner des petites techniques qui ne sont pas forcément dans les recettes familiales pour vraiment être sûr de les réussir. Couper le croquant au bon moment, donner un type de farine qui va vous faire que les amatachènes, les oreilles d'Aman, elles aient la bonne consistance. Voilà. C'est plutôt, au contraire, plutôt que de complexifier les recettes, mon travail, ça a été plutôt de donner des petites astuces. D'ailleurs, on les a écrites dans le livre, où il y a l'astuce de Noah pour vous aider à mieux faire le gâteau et vous simplifier la vie.
Alors, il faut dire aussi ce qui est important, c'est que c'est un beau livre, qu'il y a des illustrations, notamment pour la babka. Alors, le texte explique comment faire le pliage, mais il y a les photos, heureusement, qui sont déterminantes pour nous aider. Sans ça, je pense qu'on n'y arriverait pas. Et c'est vraiment utile. C'est vraiment les photos accompagnent le texte et les ingrédients.
Exactement. Les gâteaux qui étaient un peu plus techniques, on avait décidé avec Vanessa de faire des pas à pas photos. Ou par exemple, on montre comment faire la babka, les pliages, ou alors faire les pliages des amatachènes ou des cigares au miel. Voilà, c'est des petites techniques qui, effectivement, quand on les écrit simplement, peuvent être un peu ne pas être très claires. Et donc, du coup, on les a accompagnées de photos pour que ça soit plus clair et plus lisible et plus facile à reproduire.
Alors, les recettes de la tradition culinaire et en même temps des nouveautés, je pense à la pavlova aux fruits rouges, qu'on aime beaucoup, qui est servie dans beaucoup de restaurants cachers aujourd'hui, et on n'aurait pas pensé qu'elle puisse être dans ce livre de recettes traditionnelles.
Oui, et en effet, j'ai eu des regards un peu surpris quand j'ai demandé à mettre une pavlova dans le livre. Et finalement, la pavlova, on en parle, hein, Noah, souvent. C'est vraiment une recette qui a été adoptée. Hein. Tu peux peut-être en dire un mot ?
Exactement. En fait, ça a été tellement adopté par les restaurants cachers, peu importe où, qu'on a l'impression que c'est rentré dans la culture juive. C'est vraiment un gâteau très apprécié.
Et puis on apprend que c'est facile.
Et c'est facile.
Et c'est facile à faire.
De la meringue et de la chantilly avec des fruits.
Et c'est tout simple.
Donc alors, au final, c'est faisable chez toi.
Alors si je vous dis quelle est ma recette préférée, est-ce que vous me dites l'une et l'autre, quelle est la vôtre ?
Absolument.
Alors
oui.
Moi j'aurais dit le roulé au pavot, je vais en rajouter une deuxième, peut-être le boulou. Et puis vous dire aussi que ma spécialité c'est le gâteau au fromage de la recette ancestrale de ma grand-mère juive polonaise. Et pour vous Noah ?
Alors mon gâteau préféré du livre ?
Ou en général, et mais du livre en particulier,
alors,
comme ça on le refera.
Du livre, c'est la babka pistache framboise, parce que je la trouve incroyablement délicieuse. C'est un gâteau que je peux vraiment manger au petit-déj, au goûter. Je trouve qu'elle allie la rondeur de la brioche, le côté un petit peu gras de la pistache et l'acidité de la framboise. Donc vraiment, j'adore ce gâteau et je le trouve très très joli. Donc c'est celui qui me plaît le plus à manger. Et sinon, j'ai une passion infinie pour les tartes en général.
D'accord, c'est finalement assez simple.
Oui, je pense que vraiment les gâteaux les plus simples sont les meilleurs. C'est pour ça que...
Quand ils sont bien réalisés.
Mon gâteau préféré. Oui. Ah oui, quand ils sont bien réalisés. Mais je pense que les gâteaux de maman sont les meilleurs gâteaux au monde parce qu'un chef ne pourra jamais recréer autant d'amour et de douceur qu'une maman. Donc je pense que les gâteaux de maman sont vraiment... au-dessus de tout. Donc les gâteaux les plus simples sont les meilleurs.
Voilà, et pour vous Vanessa alors ?
Alors moi je suis d'accord avec Noah sur les gâteaux de nos mères. Hein. Moi mon gâteau préféré de cœur c'est la harissa de ma mère. Donc Francine fait une harissa qui est donc un gâteau. Hein. Il y a le terme harissa qui est de sauce piquante et le harissa sans hache qui est donc un gâteau, qui est un gâteau de semoule qu'elle fait pour les grandes fêtes. Mais il y a aussi un gâteau qui, moi j'ai envie de partager avec vous mon coup de cœur historique, ce sont des sablés perses à la farine de riz qui viennent des Juifs de Boukhara, qui sont dans le livre, puisque notre travail de transmission a dû nécessiter une recherche sur des cultures juives qui sont méconnues. Donc au-delà des cultures séfarades, ashkénazes et israéliennes, travailler sur ce livre m'a permis de comprendre ces recettes un peu perdues et qu'on veut vraiment s'assurer de ne pas oublier, comme ces sablés perses des Juifs de Boukhara.
Il y a un oubli, à moins que je ne l'ai pas vu, c'est le strudel aux pommes.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, le strudel, on l'a mis dans le livre précédent, Shabbat Dinners.
D'accord.
Et on s'est dit qu'il fallait apporter des nouveautés par rapport à ce que Florence Kahn, qui est pour moi la légende ashkénaze qui signe des sublimes pâtisseries, allait apporter dans ce livre.
Elle a pourtant donné la recette du gâteau au fromage
Absolument.
Traditionnel.
Oui, mais on n'avait pas dans le premier, donc on a voulu faire en sorte de diversifier.
Est-ce que vous savez à qui s'adresse votre livre ? Aux juifs, aux non-juifs, aux séfarades, aux ashkénazes, aux enfants qui cuisineraient avec leurs parents, aux grands-parents pour retrouver des recettes ?
C'est vraiment universel, donc en gros, il s'adresse à deux publics. Hein, le public de ceux qui veulent recréer ces recettes familiales, revivre ces émotions.
Et ceux qui veulent découvrir.
Et c'est pour ça qu'on a réfléchi sur ce projet avec Noah en cherchant des recettes qui vont en plus pouvoir être au goût du jour, même si des personnes ne sont pas issues de familles juives.
Il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer votre livre de recettes, qu'est-ce que vous leur diriez ? Noah d'abord.
C'est pas facile.
C'est pas facile.
Je dirais que c'est une belle manière gourmande de recréer ses souvenirs et d'en créer des nouveaux avec ses proches.
Et pour vous, Vanessa ?
Une très belle conclusion. Et moi, je dirais que c'est aussi une manière de découvrir et de contribuer à la perpétuité de notre culture.
En tout cas, merci beaucoup Vanessa Zibi et Noah Katz d'avoir parlé avec nous de votre actualité. Je le rappelle, la parution de My Jewish Bakery qui propose 65 recettes de boulangerie et pâtisserie ashkénaze, séfarade et israélienne aux éditions de La Martinière. Et je peux vous dire que j'ai testé des recettes. C'est facile à faire. C'est aussi un joli livre qu'on peut s'offrir ou offrir. C'est un joli cadeau quand on est invité à un dîner. Et c'est vraiment un ouvrage que je recommande à toutes et à tous.
Merci, Sandrine.
Peut-être
Merci beaucoup.
Je vous en prie, un autre projet futur. Mais en tout cas, voilà, une jolie réalisation que toutes les familles devraient avoir dans sa bibliothèque, j'allais dire, ou plutôt dans sa cuisine.
Merci,
bonsoir,
Sandrine.
Et à très bientôt.
Bonsoir.
Merci beaucoup.